France Bleu Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef ! Oui, Youssef ! L'ouverture du score ! Crochet, le but !
2-0 pour Brest !
Ici, c'est Brest.
Bonsoir à tous, ici c'est Brest, comme tous les lundis soirs en direct de l'Arena Café au Port du Château et émission Gueule de Bois. Encore une après la défaite 3-1 samedi à Dijon. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Stade Brestois, seulement 14e de la Ligue 2 alors que l'on vient de franchir le tiers de ce championnat? Brest qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 7 dernières journées et Brest qui n'a plus gagné à Le Blé depuis un mois et demi. Croyez-vous les Brestois capables d'un sursaut? On parlera également dans cette émission encore de la défense. Elle a encore encaissé 3 buts évitables samedi en l'espace d'une mi-temps à Dijon. Ça fait beaucoup. Yvon Kermarec veut renforcer cette défense grâce à un joker. C'est une bonne idée, mais est-ce que ça ne va pas encore alourdir le vestiaire? Est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser encore la défense? Qui mettre aux côtés de Simon Fallet en défense? Ou bien faut-il tout changer après qu'Alex Dupont a mis en cause avant la rencontre directement Simon Fallet? Votre avis au 02 98 53 65 65. Et puis on évoquera bien sûr le match de vendredi à Le Blé face à Tours. Frédéric Lenay de la Nouvelle République nous dira s'il faut craindre cette équipe de milieu de classement mais qui ne perd jamais à l'extérieur. En fin d'émission, on s'intéressera aussi à la saison du Stade Plabennécois, 12e en CFA. On l'évoquera avec l'entraîneur Franck Cardiles et le gardien de but Loïc Mottier. Et puis c'est l'un des événements sportifs du prochain week-end, le semi-marathon Saint-Paul-Morlaix, l'une des plus grandes épreuves de course à pied en Finistère. On passera un coup de fil à l'organisateur François Ledissès. Bien sûr, des places pour aller encourager le Stade Brestois en jeu. 2 places à vous offrir pour le prochain match contre Tours en tribune Arkéa. Je vous rappelle le numéro qui vous permettra de jouer et d'intervenir. 02 98 53 65 65. Ici c'est Brest jusqu'à 19h.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Nos débatteurs dans un instant, Robert Malm, l'ancien Brestois qui commentait Dijon-Brest pour beIN Sport, Martial Guarnisson de foot29.com et Maël Moisan du Télégramme. Et puis, avant de retrouver tout ce beau monde, on revit ce Dijon-Brest comme vous l'avez vécu en direct sur France Bleu Bray Zizel en compagnie de notre ami supporter dijonnais qui criait très très fort samedi.
Bah, Tokyo et son pied droit, c'est pas mal tiré au premier poteau, c'est renvoyé par Christopher Julien. Eric Thiebi qui contrôle ce ballon, qui se retourne et qui frappe de peu au-dessus de la barre transversale de Baptiste Traîné. 6e minute de jeu et première occasion pour le Stade Brestois. Peut-être une contre-attaque avec Eric Thiebi dans la profondeur pour Youssef Hanan qui rentre dans la surface de réparation. Et le but de Youssef Hanan à la demi-heure de jeu. Le 3e but cette saison de Youssef Hanan, bien servi dans l'axe du terrain, dans la profondeur par Eric Thiebi. Il a touché ce ballon, il l'a contrôlé histoire de fixer la défense de Christopher Julien. Et derrière, du pied droit, frappe au ras du sol. Il va trouver le petit filet opposé de Baptiste Traîné. Et sur la première frappe cadrée brestoise dans cette rencontre, Youssef Hanan qui ouvre le score. Deuxième corner coup sur coup pour Dijon. Et nouveau corner qui va être tiré par Frédéric Samaritano de la droite. C'est tiré, c'est plus devant la cage. Oh, il y a une tête dijonnaise, heureusement ça passe au-dessus. Tête dijonnaise dans l'axe du terrain. C'est Andonian, le défenseur latéral gauche, qui a mis cette tête. Et heureusement, il ne l'a pas cadré. Et donc, nouveau corner pour les Dijonais dans cette deuxième période qui va être tirée par Frédéric Samaritano. Finalement, ce sera en deux temps avec Abdoulaye Bamba. Bamba, le ballon en cloche dans la surface de réparation. Vous voulez trouver la tête de Christopher Julien et l'égalisation pour Dijon. Le ballon qui naviguait dans la surface de réparation et l'égalisation à la 55e minute de jeu suite à ce corner tiré de la droite par Frédéric Samaritano. On met la balle devant la cage pour trouver la tête de Christopher Julien. Finalement, Julien, il envoie le ballon au deuxième poteau et j'ai l'impression que c'est Cédric Varro, je suis pas sûr, je vais vous confirmer ça.
C'est Varro. Hein.
Qui marque ce ballon, c'est Cédric Varro effectivement. Récupération d'Amalfitano qui va lancer Bella sur le côté gauche. Bella en 1 contre 1 face à Maxime Brio, il se met sur son pied droit. Il est tout seul au deuxième poteau et heureusement il rate complètement sa reprise de la tête, Loïs Nery.
C'est pas possible.
Ah, c'est pas possible, c'est difficile à croire, effectivement mon bon ami. Hein. Puis... Oh, attention, Amalfitano dans la surface de réparation. Le ballon mal repoussé par Simon Fallet. La frappe de Samaritano et le deuxième but pour Dijon. 2-1 à la 71e minute de jeu. Keïta qui se met sur son pied gauche. Kevin Koubemba qui n'est pas en position de hors-jeu. Le ballon de la tête. Allez, il faut le glisser jusqu'à Brian Pelé. La balle d'égalisation pour Brian Pelé, mais qui rate, qui va pas accrocher le cadre. Ah, c'était la balle d'égalisation avec ce service pour Brian Pelé sur le côté droit dans la surface de réparation. On n'a pas beaucoup d'occasions dans cette deuxième mi-temps et celle-là, fallait vraiment pas la rater. C'était une balle en or massif pour Brian Pelé qui dévisse sa frappe et qui va tirer à côté. C'était presque plus difficile de ne pas la cadrer celle-là que de la cadrer. Maxime Briot qui se rate sur un long ballon en cloche. Récupération de Tavares. Tavares pour Mamadou Thiam et 3. Voilà, terminé, fini, plié en 3. Un ballon en cloche vers l'entrée de la surface de réparation brestoise. Maxime Briot qui lit mal la trajectoire de ce ballon qui rebondissait devant lui. Julio Tavares qui arrive à le contrôler, à trouver un relais avec Mamadou Thiam. Et Mamadou Thiam qui vient plier cette rencontre à la 92e minute de jeu. C'est terminé. Le stade brestois va s'incliner sur le score de 3 buts à 1.
Ici, c'est Brest.
3 buts à 1 donc pour Dijon qui en profite pour reprendre la tête de la Ligue 2 et le stade brestois qui dérive à la 14e place du classement. On accueille Robert Malme, consultant de beIN Sport. Bonsoir Robert.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Ici c'est Brest, ancien joueur du stade brestois lors de la saison 2005-2006. Et puis à mes côtés, à l'Arena Café au port du Château, Martial Guarnisson de foot29.com. Salut Martial.
Salut, bonsoir.
Et je vous rappelle que vous pouvez intervenir vous aussi au 02 98 53 65 65. Robert, défaite logique ou illogique? Parce que le stade brestois avait quand même plutôt bien géré, notamment défensivement en première période, et même dans une deuxième mi-temps bien plus compliquée. Brian Pelé, on l'entendait à l'instant, à la balle d'égalisation à deux partout sur un service de Koubemba.
Ouais, vous voyez comme quoi un match ça tient à peu de choses et ça peut basculer aussi bien dans un sens que dans l'autre. Je trouve que sur cette première période, Brest a plutôt bien géré les choses, a joué, je dirais, bien en bloc, a su coulisser d'avant en arrière sur les côtés, mais d'un seul homme. Et Dijon a eu énormément de mal à trouver des espaces. 2-3 fois est passé sur les côtés, mais n'était pas montré extrêmement dangereux. Et puis sur un compte qui a été rondement bien mené, c'est ce que je disais à l'antenne, c'est qu'on arrive très rapidement dans le camp dijonnais. Je crois que le but qui est marqué par Youssef, il doit y avoir 3 passes, je crois, avec un super déplacement aussi de Joseph Monroz qui permet à Youssef Hanan de prendre la profondeur et de se retrouver à l'entrée de la surface. Alors oui, il y a un manque d'agressivité aussi de la part du défenseur dijonnais qui était Christopher Julien par rapport à Youssef Hanan, mais je veux dire, l'action a été rondement bien menée et à ce moment-là de la partie, sincèrement, je ne voyais pas ce qui pouvait inquiéter le stade brestois. Et puis cette seconde période où Dijon a élevé un peu son niveau de jeu et j'irais même sous la pression, Brest a su bien tenir et puis dès que ce but a été marqué, j'ai l'impression que l'équipe a commencé à se liquifier.
Mais Martial, voilà, c'est pas la première fois cette saison que le stade brestois nous montre 2 visages au cours d'un même match. La deuxième mi-temps, comme le disait Robert, Dijon a élevé son niveau de jeu, c'est incontestable. Ils ont eu 5 occasions de but, ils marquent 3 fois en deuxième période. Mais est-ce que Brest a quand même pas trop laissé jouer Dijon au retour du vestiaire notamment?
On a cette désagréable sensation que dès qu'un adversaire se met vraiment à jouer et à presser le stade brestois, ça,
on est vulnérable.
Ça explose et il y a une stat assez étrange et qui assez parlante aussi en même temps, c'est que Brest est, je crois, le leader de la Ligue 2 à la mi-temps.
Oui. Mais en deuxième mi-temps, c'est tout le contraire.
Voilà.
Alors, ouais, c'est vrai que ça veut dire que cette équipe-là, elle est capable du meilleur comme du pire. Est-ce que finalement, Robert, le problème, il n'est pas psychologique dans cette équipe brestoise? Vous les aviez vus également avec beIN face à Metz, c'était avant la dernière trêve internationale, où ils ouvrent le score. Et puis en deuxième mi-temps, bon, ils se font rattraper, mais ils ont quand même l'opportunité d'aller chercher la victoire en fin de match. On a l'impression que du côté brestois, depuis un an, chaque fois qu'on peut aller chercher une victoire qui peut faire basculer du bon côté, parce qu'en cas de victoire samedi, Brest aurait été 6e. Chaque fois, Brest a du mal à faire la bascule.
Oui, on a du mal à faire la bascule. On a du mal, pourquoi, je ne sais pas. Alors, je ne suis pas non plus intérieur de groupe, mais de moi, de ce que je ressens de l'extérieur, c'est que Brest, vous l'avez dit, est capable du meilleur comme du pire, est capable de faire des coups, mais et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'est pas capable
de répéter ses coups sur la durée. Quand j'y répéter ses coups, c'est de faire une série qui permettrait à Brest de pouvoir naviguer dans des eaux beaucoup plus tranquilles et être, je dirais, mieux classé que cette 14e place-là. Parce que il y a de la qualité, on prend tous les joueurs intrinsèquement, chacun de la qualité. Par contre, par moment, ça manque d'agressivité. Je suis désolé, mais sur le troisième but, où le ballon rebondit, Tavares a le temps de caler Brio et puis de donner un ballon, je dirais, facilement au petit Thiam qui va marquer. Je suis désolé, à un moment donné, il faut savoir, c'est pas être méchant, mais il faut savoir soit le bousculer ou essayer de passer devant lui à ce moment-là du match. Sur certaines actions où il faut se montrer plus méchant, l'occasion qu'a le petit Pelé, je suis désolé, mais... contrôle pas très très bien son ballon au départ, c'est ce que je dis à l'antenne, et quand je revois les images, je reste sur ce que j'ai dit. Mais après, il faut être tueur, quoi. Il faut être tueur dans la surface de réparation, dans les deux surfaces, que ça soit celle défensive ou celle offensivement. Parce que s'il y a un autre état d'esprit et qu'on met, à l'arrière, j'aurais même préféré qu'il mette le ballon dessus, parce qu'il aura tellement voulu bien faire que ce sera vraiment engagé.
Parce qu'il aurait frappé trop fort.
La moitié ratée, et surtout un contrôle pas très bien réussi dès le départ.
Martial, c'est vrai que finalement le Stade Brestois incapable de faire une série, mais même une répétition des efforts au cours de la rencontre. Finalement, c'est comme énormément d'équipes en Ligue 2. Est-ce que dans ce cas-là, faut pas s'inquiéter parce qu'on est 14e, parce que Alex Dupont désormais évoque même plus les ambitions. Après match à Dijon, il nous parlait que du match qui va venir face à Tours. Et 4 points d'avance, 5 points d'avance, hein, je crois, sur la zone de relégation. Est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter et tirer la sonnette d'alarme?
Le souci, c'est que on a l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu l'an passé, mais quand on était dans le haut du classement, où ironiquement, j'avais appelé Brest le Jean-Claude Duss du foot.
C'est-à-dire qu'au moment de conclure.
Voilà. On se manque irrémédiablement.
Et pas de malentendu. Quoi.
Voilà. Et donc, ça a été en Coupe de France, ça a été en championnat. Ça a été, donc là, cette année, c'est au niveau des séries. Il y a un petit espoir à Créteil. Derrière, on se manque irrémédiablement. Et c'est vrai que le classement commence à tourner. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que depuis le moment où Alex Dupont a dit que on n'a pas les capacités pour jouer, on va être solide derrière. Ce qui n'est pas le cas parce que Brest est la 19e défense de Ligue 2 maintenant. On va contrer. Brest est 17e sur les 7 derniers matchs. Donc peut-être qu'il faut revenir à plus de foot. On a Batocchio, peut-être que c'est...
Le remettre dans l'axe.
Voilà, peut-être. Parce qu'on sent qu'il n'est pas bien sur ce côté gauche.
Ouais. Robert, vous vouliez rajouter quelque chose?
Alors, je suis d'accord, effectivement, Créteil, le match de Créteil laissé entrevoir une embellie. Derrière, malheureusement, ça s'est pas confirmé, mais faut pas non plus tout noircir parce que la première période à Dijon est quand même bonne. Vous disiez que Alex Dupont disait qu'on va bétonner puis jouer en contre. On voit en première période, défensivement, ça a été costaud. Ça a été costaud parce que Dijon n'a pas du tout été dangereux. C'est même Brest qui a les situations les plus intéressantes. Et tout ça, c'est réalisé aussi par le premier but qui est marqué durant la rencontre. Donc je pense qu'il faut pas non plus tout noircir. Après, est-ce qu'il y a un autre schéma à essayer? Je ne sais pas. Je ne suis pas malheureusement tous les jours avec Brest pour savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Est-ce que le petit Batocchio, faut peut-être le recentrer? Je ne sais pas. Après, c'est à Alex Dupont à savoir. Mais Alex aussi Dupont a un équilibre d'équipe à avoir, qu'il cherche. Ça marche sur un match. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on tente la même chose pour essayer d'avoir une continuité et une cohérence dans le travail. Pour le moment, ça marche un coup oui, un coup non. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, qui permette à Brest de pouvoir confirmer un bon résultat? C'est là où est tout le problème. Alors, est-ce que c'est un problème, je dirais, physique? Je ne pense pas. Footballistiquement parlant, les joueurs, excusez-moi, mais sont loin d'être mauvais sur le plan technique. Donc, est-ce que c'est plutôt pas dans les têtes? À savoir, maintenant, dans les têtes, est-ce que les joueurs se mettent pas une pression inutile ou ont peur de mal faire? Un petit peu comme le match contre Valenciennes.
Robert Malm, consultant Beansport, qui était en direct avec nous pour débriefer donc cette défaite à Dijon sur le score de 3-1. Merci beaucoup, Robert.
Avec plaisir, donc, avec grand plaisir.
À très bientôt.
Et puis, le stade, hein, il ne faut pas non plus tout assombrir. Moi, je pense qu'il y a cette équipe a quelque chose à faire. Après, il faut simplement, alors c'est facile aujourd'hui de le dire, peut-être remettre certaines têtes à l'endroit et puis se dire que voilà, il faut jouer, se lâcher. Parce que ayant peur comme ça, parce qu'à un moment on peut ressentir aussi un peu de la peur, parce qu'on mène 1-0, on ne veut pas trop prendre de risques, maintenant, c'est de continuer à se projeter vers l'avant et surtout ne pas baisser les bras parce que si le Stade n'avait pas une équipe pour pouvoir faire ça, je le dirais en toute sincérité, mais c'est aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Au contraire, il y a l'équipe pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il faut tout simplement hausser le niveau. Voilà.
Là, c'est le cœur de l'ancien stadiste qui a parlé. On l'a senti. À très bientôt, Robert.
Voilà. À très bientôt.
Merci.
Au plaisir de se recroiser au Stade.
Martial Guarnisson, tu restes avec nous et on va retrouver dans quelques instants Maël Moisan du Télégramme. Juste le temps de jouer. Si vous voulez aller encourager le Stade Brestois vendredi à Francis Leblé, vous avez entendu Robert Mal, ils en auront besoin. Prochaine journée de Ligue 2, la 14e déjà, et Brest qui va affronter le Tour FC à 20h. On vous offre deux places en tribune Arkéa, plus, parce qu'on est comme ça, le supplément breton avec les clubs de Bretagne de la Ligue 1 à l'ADH. Alors vous ne nous en voudrez pas, c'est un Guingampère en couverture. Bon, on n'a pas trop choisi, hein, mais c'est comme ça. Allez, souvenez-vous, un Tour Brest, un Brest-Tour plutôt, qui nous est resté en mémoire. C'était en 2010, le 30 avril 2010. Brest arrache sa montée en l'emportant 2-0 à Francis Leblé. C'était devant 10 024 spectateurs. Nolan Roux avait ouvert le score, mais qui avait marqué le deuxième but sur pénalty? Est-ce que c'était Bruno Grougy? Est-ce que c'était Romain Poyer? Est-ce que c'était Moïse Brouapanga? Vos réponses dès à présent au 02 98 53 65 65. C'est Sean qui attend vos appels au standard.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Et Maël Moisan du Télégramme qui nous rejoint. Salut Maël.
Salut Thomas.
Et on va parler de la défense. Oui, encore une fois, il y a encore des choses à dire. Elle a encore souffert samedi, cette défense. Alors pas en première mi-temps, pas forcément, mis à part sur deux, trois petites incursions sur les ailes, mais encore trois buts encaissés. Et Martial, cette défense en deuxième mi-temps, comment expliquer que, alors qu'elle avait plus ou moins tenu dans la première partie de match, qu'elle ait autant craqué? C'est davantage psychologique, le problème psychologique qu'on évoquait, ou c'est Dijon qui a quand même haussé son niveau de jeu?
Je pense que Dijon a quand même nettement haussé son niveau de jeu en deuxième mi-temps. Et il y a une fébrilité qui est patente dans la défense brestoise. C'est ça le souci qui est là. Alex Dupont a tenté plusieurs combinaisons, que ce soit avec Sanko, avec Lorenzi, avec Brio. Revient toujours ce souci de fébrilité. On n'arrive pas à trouver le bon duo défensif. Et sur les côtés non plus, c'est pas... Il n'y a qu'une garantie, c'est pour le moment dans cette défense, c'est Bello.
Gaëtan Bello à droite.
Voilà, et Keita qui peut, il fait aussi son travail.
Mais là, donc, c'est offensivement,
voilà.
Il est un peu moins.
Voilà, ouais. C'est là que ça pêche un petit peu, mais ça reste un problème, cet axe défensif. Et c'est depuis le départ de Traoré, on cherche son remplaçant tout simplement et on ne l'a pas trouvé.
Maël, samedi à Dijon aussi, c'est la récupération qui a souffert, qui a été moins impériale qu'à Créteil, notamment lors de la dernière victoire du Stade Brestois à l'extérieur et cette saison.
Mmh. Oui, bah, je suis assez d'accord avec Martial aussi, mais moi, à Dijon, j'ai trouvé quand même que Sanko avait été plutôt bon à la récupération, plutôt intéressant. Bon, après, comme toute l'équipe, en deuxième mi-temps, quand Dijon a haussé le rythme, c'était beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'il y a surtout un problème de confiance, un gros, gros problème de confiance, au-delà des individualités et des joueurs qu'on pourrait pointer un à un, c'est un problème de confiance. Notamment l'exemple, au-delà de la récupération, en défense centrale, un joueur comme Salet, qui était très, très bon la saison dernière, a beaucoup plus de mal cette saison, quoi. Voilà, donc je pense que c'est déjà un problème de confiance au lieu d'un problème joueur par joueur ou zone par zone, quoi.
On va accueillir Mathieu, 17 ans, supporter du Stade Brestois et qui nous appelle de Guy Pava. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Mathieu, un petit mot, on débat de la défense du Stade Brestois. Quelle formule pour cette défense du Stade Brestois? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que ce Stade Brestois-là soit un petit peu plus solide et un petit peu plus serein derrière? Le problème, il est dans les têtes, il est dans l'engagement?
Je pense que je vais dire que faudrait peut-être que Dupont change de tête des défenseurs pour qu'ils mettent des défenseurs un peu mieux contre Tours vendredi, quoi.
Ouais, mais il faut les trouver aussi.
Faut les trouver, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a peut-être des défenseurs qui sont pas bons, mais après je vais pas aller dire j'ai pas vraiment envie, mais après les défenseurs qui sont remplaçants, peut-être que Dupont devrait peut-être au moins faire des changements pour qu'ils soient mieux dans l'axe en fait et pour bien préparer le match de Tours vendredi, quoi.
Alors Mathieu, vous avez remporté également les deux places qui étaient mises en jeu. J'ai posé la question il y a quelques secondes. Lors du célèbre Brest Tour de 2010, c'est Nolan Roux qui avait ouvert le score et qui avait marqué le deuxième but?
C'était Bruno Grougy sur penalty.
Voilà, sur pénalty. Donc vous gagnez deux places pour aller assister à la rencontre face à Tours vendredi soir à Le Blé en tribune Arkéa. Et puis, eh bien, on glisse le supplément du magazine breton avec tous les clubs bretons de la Ligue 1 à la DH. Merci beaucoup, Mathieu de Guy Pavard.
Ouais. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Thomas. Au revoir.
Merci Mathieu, à très bientôt. On retrouve Martial Guarnisson, on retrouve également Maël Moisan. Messieurs, on va quand même écouter Alex Dupont. J'ai sorti un extrait de sa conférence de presse d'avant-match, jeudi, avant le déplacement à Dijon. Et il évoquait notamment un de ses joueurs. Écoutez, pas n'importe lequel. Écoutez Alex Dupont.
Je ne veux pas non plus pointer du doigt les quatre défenseurs. Hein. Je veux aussi parler de l'équipe et dans son ensemble. Mais il y a des garçons qui ne jouent pas non plus à leur niveau. Aujourd'hui, Simon a un peu plus de responsabilité. C'est plus difficile pour lui à assumer. Il n'est pas, je lui ai dit, il fait pas la saison qu'on espérait. Et il en a conscience lui aussi. Il faut qu'il revienne des choses beaucoup plus simples et redevenir le défenseur intraitable qu'il était tout au long de la saison dernière. Et que ce rôle de capitaine ne doit pas l'éparpiller. Quoi.
Alors c'est quand même rare qu'Alex Dupont... Voilà, mettre comme ça sur la scène publique un joueur en cause. Et en plus, son capitaine, Maël, Simon Fallette, c'est son capitaine. C'est l'un des joueurs qui nous semble inamovible également en défense. Il a voulu faire quoi? Il a voulu piquer son capitaine là-dessus, Maël?
Je ne suis pas persuadé qu'il a voulu piquer parce que les performances de Fallette, tout le monde les voit. Et après, on parle de Fallette, mais on pourrait en parler d'autres. Hein. Comme disait tout à l'heure Martial, c'est surtout Belot qui est exemple pour reproche pour le moment. Mais Fallette, effectivement, il a hérité du brassard et pour le moment, c'est pas une responsabilité simple à gérer. Et on sent bien que les performances ne suivent pas pour le moment. Il avait bien démarré, il a fait 2-3 premières prestations intéressantes et puis depuis, c'est plus compliqué. Mais je pense que plus que le piquer, c'est un constat, quoi. Constat qui est difficile, enfin, il peut difficilement faire un autre constat, quoi.
Alors, comme disait Mathieu il y a quelques secondes, Martial, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye quand même malgré tout de maintenir ce schéma tactique-là pour avoir un minimum de continuité, de faire en sorte également que les joueurs reprennent confiance avec du temps de jeu, ou est-ce qu'il faut encore chercher des expérimentations? Corentin Jacob, pourquoi pas, qu'on a vu apparaître dans le groupe, qui peut jouer en défense centrale, qui est peut-être encore un peu jeune pour jouer en défense centrale.
Je pense que là maintenant on paye un petit peu le fait de ne pas avoir fait confiance d'entrée aux jeunes joueurs et avoir donné du temps de jeu à Jacob. Ce qui aurait offert.
Brendan Chardonnay.
Voilà, il y a Brendan Chardonnay qui est parti, qui a vu malheureusement le match contre Valenciennes depuis les loges. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir une solution. Maintenant, c'est très compliqué de le lancer maintenant. Je pense que d'ici la trêve, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire confiance à la paire Brio-Fallette. Je pense que ça sera compliqué de refaire encore, de reglisser Sanko en défense ou même de mettre Lorenzi derrière. Ça va apporter, je pense, plutôt que de la confusion que des garanties. Et comme le président Kermarek a dit qu'il attendait une recrue, peut-être un joker, c'est peut-être de là que viendra la solution. Mais pour l'heure, je pense qu'il va falloir faire le signe de croix et serrer tout ce qu'on peut serrer.
Alors Martial, tu as spoilé ce qui allait arriver dans cette émission, parce que justement, on va écouter le président Yvon Kermarek, toujours une réaction recueillie après la défaite samedi à Dijon.
On doit faire des aménagements au niveau des joueurs. On doit, je pense, sur un ou deux postes, disons au moins sur un poste, se servir de l'opportunité qu'on a de faire un joker. Maintenant, il faut trouver l'homme de la situation. Je sais que c'était un point qu'il fallait renforcer, donc on avait commencé à regarder. Moi, j'ai demandé qu'on active un peu nos recherches parce qu'il y a vraiment urgence de ce côté-là.
Yvon Kermarek, le président du Stade Brestois, qui évoque donc la possibilité d'un joker et d'un joueur en défense. On accueille au standard Guy de Brest. Bonsoir Guy.
Oui, bonsoir Thomas.
Vous, cette opportunité de prendre un joker, vous y êtes favorable? Parce que dans le message que vous nous avez laissé un peu plus tôt dans la journée, à vous, le mercato, vous le craignez un petit peu, le mercato d'hiver?
Ah bah oui, parce que si on reste une défense comme ça, on y va droit au national. Alors moi je tenterai un gros coup. Je tenterai Fallette Jacob ou Fallette de Normand. Parce que j'ai l'impression que Fallette, il n'a pas confiance à Brio et qu'il est que Fallette est toujours en train de surveiller Brio, de savoir qu'est-ce qu'il va faire et son ballon et tout. Et je pense que c'est pour ça que Fallette n'est pas à 100%.
Le Normand, Martial, c'est également un des jeunes joueurs de ce stade brestois.
Bah oui, mais s'il ne joue pas, ils vont se barrer. Ouais.
Ils vont durer, peut-être blessé, par contre, le Normand, il a été longtemps blessé. Ça serait trop dangereux pour lui même de le mettre tout de suite.
Mais on en revient toujours à cette question de lancer les jeunes.
On c'est ça. On le fait en début question, de saison, ouais. on s'offre une solution supplémentaire. Après, les mois défilent et on se dit qu'on ne lance pas un jeune dans ces conditions-là.
Merci beaucoup, Guy, d'être intervenu au 02 98 53 65 65. Bonne soirée, Guy.
Ouais, merci. Au revoir.
Et pour en revenir, Maël, Moisan du Télégramme, à cette question du Joker. Alors déjà, c'était pas Donovan Léon, le Joker, parce qu'il avait signé le lendemain de la fin du mercato d'été, Donovan Léon, le gardien de but remplaçant. Il était libre,
donc appartenant à un joueur et un joueur est libre au moment du mercato estival. Lui, il peut s'engager jusqu'en janvier sans problème, enfin, jusqu'au 31 décembre sans souci, quoi. Là, c'est un joker, c'est-à-dire c'est un joueur qui peut être sous contrat, un joueur français sous contrat, donc qui peut être prêté ou vendu. Mmh. C'était le cas notamment de Birama Touré qui est arrivé prêté par Nantes en novembre dernier. Donc ça peut être de ce profil-là, enfin, plutôt un prêt ou un achat d'un joueur français.
Donc voilà, en tout cas, ça peut être un joueur qui n'aurait pas de temps de jeu ailleurs, voilà. Que ce soit en Ligue 2 ou à l'échelon au-dessus.
Voilà, avec la problématique supplémentaire d'apporter un joueur supplémentaire à ce poste-là, parce que quand on rembobine l'été dernier, on a fait partir Chardonnay en prêt, on a recruté aussi Lorenzi, on a recruté Brio, donc on a aussi Sanko qui peut évoluer dans l'axe. Il faut y investir à gérer derrière.
Mais la dernière question aussi sur ce... Ouais, Maël, je t'ai coupé.
Non, plutôt, je pense que, si vous vous souvenez bien, Alex Dupont réclamait un milieu défensif supplémentaire au moment du mercato estival, ça s'était pas fait, pour des raisons financières aussi. Après, le club n'avait pas pris ce milieu défensif supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec le remplacement de Sanko, c'est plutôt un défenseur central qui vont rechercher en joker défensif. Ce sera plutôt à ce poste-là. Et pour terminer, pour revenir sur ce que Martial dit sur Chardonnay, c'est très bien la saison qu'il fait à Épinal aussi. Ça lui permet aussi de jouer et d'enchaîner tous les matchs. Et je pense qu'il
va être la compétition.
Et voilà, il reviendra bien mieux parce que la saison dernière, il n'a pas non plus gagné sa place. Il n'arrêtait pas de gagner sa place la saison dernière.
Et dernière question, messieurs, et puis on terminera sur cette question du Joker. Mais on a déjà, le Stade Brestois a déjà un effectif qui compte parmi les plus riches de la Ligue 2. Est-ce que ça risque pas d'alourdir encore cet effectif-là que de faire venir un Joker ? Il n'y a pas le choix malgré tout, Maël ?
Ils ont beaucoup de monde, notamment dans le secteur offensif. Aujourd'hui, ils ont plus de monde devant. Derrière, ils n'ont pas énormément de possibilités en défense centrale. Là, ils ont un troisième joueur, c'est Lorenzi. Au-delà, si on considère que Sanko est un milieu de terrain désormais, ils n'ont pas énormément de solutions, hein, parce que Jacob et Sissoko sont plutôt des milieux de terrain en réserve.
Des récupérateurs, ouais.
Des récupérateurs. Donc, partant de là, je pense qu'effectivement, ils ont du monde devant. Mais après, on verra bien. Peut-être qu'il y aura aussi des joueurs qui auront un bon de sortie cet hiver dans le secteur offensif. Hein. C'est peut-être aussi comme ça.
C'est très riche aussi, ouais. Martial,
parce que cette recherche possible d'un joker défensif, ça dénote aussi le problème d'un recrutement estival où, au lieu de prendre peut-être un joueur qui ne pouvait jouer que les compléments, qui est Lorenzi, il fallait prendre sans doute un titulaire potentiel et faire jouer la concurrence peut-être avec trois éléments. Et Sanko, on ne savait pas trop quand il arrivait, si c'était à droite, si c'était au milieu, si c'était en défense. Maintenant c'est au milieu, là ça va faire beaucoup de monde et même le pauvre Lorenzi, dans ce cas-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va jouer, s'il y a une autre recrue qui arrive derrière. Ça, c'est dommage parce que c'est une recrue estivale. Donc, on aura quelques joueurs qui seront en difficulté sûrement au mercato hivernal, dans le domaine offensif, notamment avec Plaché et consorts. Mais c'est créer peut-être rajouter du problème au problème.
Ouais. 18h38 sur France Bleu Braille Zizel. Merci beaucoup à Maël Moisan, journaliste du Télégramme. Merci Maël, repose-toi bien.
Il n'y a pas de quoi. Merci, bonne soirée.
À très bientôt. Et merci. Merci également à Martial, mais tu peux rester si tu veux. Martial, on va parler du Tours Football Club dans quelques petites secondes sur France Bleu Braille Zizel.
À Brest, de la Pinfeld au Stangalard, ma radio, c'est France Bleu Braille Zizel.
Le Quiz Braille, c'est le jeu de 11h sur France Bleu Braille Zizel. On peut gagner si on a lu le journal, écouté la radio, regardé la télé, ou encore si on a une bonne culture générale, ça marche aussi.
J'ai la bonne réponse.
C'est très bien, mais j'ai pas encore posé la question.
Vous croyez, j'ai des visions des fois. Hein.
Au pif, le Quiz Braille, ça le fait aussi du lundi au vendredi, de 11h à 11h30 sur France Bleu Braille Zizel.
France Bleu Midi Ensemble.
Daniela Lombroso.
Vous aurez le plaisir de retrouver deux comédiennes incroyables, Sandrine Bonner et Marthe Villalonga. Elles interprètent ensemble un duo mère-fille bouleversant dans un film que je vous recommande vraiment et qui s'appelle La Dernière Leçon. Avec elles, l'humoriste Ben, qui quant à lui va nous donner une drôle de leçon d'écologie, sera votre invité. La comédie est donc à l'honneur dans France Bleu Midi Ensemble.
France Bleu Midi Ensemble. Demain, de midi à 13h30.
Bureau d'enregistrement des rêves, bonjour.
Euro Million My Million. Venez avec vos rêves. Ce vendredi, Super Jackpot Euro Million de 100 millions d'euros minimum.
Oh, c'est beaucoup ça.
À partager au rang 1, voire règlement.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Deux ans sans augmentation des tarifs pour l'assurance de mon auto, faut le faire.
La Met Mutuelle le fait. Deux ans sans augmentation, ça peut même baisser.
Avec les mêmes garanties?
Oui, monsieur, avec les mêmes garanties.
La Met Mutuelle, elle assure.
Offre tarifaire soumise à conditions. Hors flotte de véhicules à garantie et taxes identiques, sauf application d'un malus.
France Bleu Brésil, supporter du Stade Brestois.
18h40, toujours ici, c'est Brest en direct de l'Arena Café à Brest avec Martial Guarnisson de foot29.com et Frédéric Lenay de La Nouvelle République. Bonjour Frédéric.
Bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir. Effectivement, tu as raison. C'est le soir, c'est l'heure d'hiver, le soleil est déjà couché. Et bravo pour ta patience, Frédéric, parce que je t'ai fait un peu poireauter. Tu suis au quotidien le Tour FC pour la Nouvelle République. Tour 12e, 3 victoires, 7 matchs nuls, 3 défaites. C'est pas le Paris FC non plus qui ne fait que des matchs nuls, mais c'est quand même pas mal. 17e attaque, mais 2e défense. Et puis surtout, Frédéric, 0 défaite à l'extérieur, 1 victoire et 6 matchs nuls. C'est pas trop mal pour une équipe qui est presque repartie de zéro cet été.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une équipe qui est repartie de zéro avec un effectif quasiment similaire. Enfin, on retrouve en tout cas beaucoup de joueurs parmi les titulaires qui étaient déjà là l'an passé. C'est juste un effectif qui a été complété. Il était famélique en début de saison passée, un peu plus consistant après le mercato d'hiver, mais c'était quand même compliqué pour tenir toute une saison en Ligue 2. Et là, durant l'été, l'effectif a été renforcé en nombre, en qualité aussi sur certains postes, mais surtout en nombre. Et puis surtout, il y a eu un changement de staff complet, au-delà de l'arrivée même de Marco Simone. C'est tout un staff technique qui a été remodelé et du coup le visage des Tourangeaux est plus du tout le même que celui de la saison passée.
Et Frédéric, les chiffres que j'exposais il y a quelques secondes, 0 défaite à l'extérieur, 1 victoire et 6 matchs nuls. Est-ce que ça veut dire que Tour est plus à l'aise quand il ne joue pas à la Vallée du Cher chez lui?
Oui et non. Alors oui, parce que Tour est plus à l'aise depuis le début de la saison, c'est clair, quand il s'agit de défendre, quand il s'agit de défendre collectivement, puisque c'est vraiment tout un bloc équipe qui défend, et donc c'est forcément un peu plus simple quand on est à l'extérieur, parce que c'est bien, même si ça devrait pas forcément être ça, mais en tout cas en Ligue 2 c'est beaucoup ça. Quand on est à l'extérieur, on attend plutôt l'équipe qui reçoit qui est censée faire le jeu. Donc là-dessus, Tours est plus à l'aise. Après, dans les dernières prestations Tour-Angèle, j'ai envie de dire que c'est en train de se modifier un peu, que le l'apprentissage du travail, du gros travail tactique défensif imposé par Marco Simone et son staff aux joueurs Tourangeaux, cet apprentissage-là a été fait, ça commence à être bien intégré, et maintenant depuis la mi-septembre, et puis ça s'est amélioré là ces dernières semaines, on passe au deuxième étage de la fusée, deuxième étage de l'apprentissage. On se tourne vers les tâches offensives, on essaye de trouver un équilibre du côté Tourangeau là-dessus. C'est en train de se faire, il y a réellement du mieux, même si ça se reflète pas toujours dans les résultats. Je pense notamment au dernier déplacement, puisque vous parlez des déplacements, où Tours aurait... Bon, à Laval, le Tour s'en sort bien avec un match nul, mais que ce soit à Sochaux, à Valenciennes ou même à Lens, le Tour FC aurait pu espérer un peu mieux en étant un peu plus réaliste devant.
Il avait emporté cette saison, leur seule victoire c'est à Ajaccio hein, également. Martial, comme nous dit Frédéric, c'est vrai que c'est une équipe que l'on attend peut-être avant tout attentiste, mais qui s'épargne pas l'idée d'attaquer quand il y a une brèche. Ça ressemble curieusement à Valenciennes, ça. Ouais. Qui nous avait fait tant mal. Hein.
Ouais, là, ça ressemble un petit peu à ça. Et surtout, je trouve ça, le visage tourangeau s'est modifié ces dernières semaines. On a l'impression qu'il y a plus, enfin, je dis ça de loin, mais la patte Marco, voilà, la patte Marco Simone a l'air de s'installer. Et notamment, il y a l'air d'avoir un petit attaquant italien en pointe, dont j'ai oublié le nom, là, qui a l'air d'être assez remuant et qui fait penser.
Luca Miracoli, ouais.
Voilà, qui fait un peu peur de genre Pierre Silidja.
Ah, capable de partir dans le dos de la défense, voilà. Des face à face, tout ça.
Et... Ouais, c'est Luca Miracoli, effectivement, c'est un peu le chouchou là ces dernières journées de Marco Simone, parce que c'est un attaquant généreux, c'est un attaquant qui s'adapte bien au système mis en place par l'entraîneur italien, parce qu'il permet de plus en plus à l'équipe tourangelle de conserver un peu plus le ballon dans les 40 derniers mètres adverses, parce qu'il va au duel, il est assez grand, alors il a pas encore trouvé toutes ses marques en Ligue 2, mais bon, il commence à prendre un peu plus les ballons de la tête, à les conserver un peu plus, à travailler pour le reste de l'équipe, ce qui permet à tout le bloc qui a travaillé défensivement de remonter un peu. Et ça offre un peu plus d'opportunités au Touassé, mais il y a toujours ce problème d'efficacité parce que.
Mais Frédéric, qui s'est exprimé notamment face au Havre vendredi. Il reste sur une défaite 1-0 à domicile, les joueurs de.
Voilà, mais alors je vais vous dire, il reste peut-être sur une défaite 1-0, mais pour avoir vu quasiment tous les matchs du Touassé depuis le début de la saison, j'ai envie de vous dire que c'est quasiment leur meilleur match, paradoxalement, depuis le début de la saison. Puisqu'ils simplement ils prennent le but à la 21e seconde de jeu sur une erreur de concentration, ils prennent ce but et puis après tout le reste du match, c'est-à-dire les 93 minutes restantes en comptant les arrêts de jeu, ils ont dominé les Havrais de la tête et des épaules. Ils ont ne serait-ce qu'en première période, ils se sont créés 6 ou 7 occasions franches.
Au moins, ouais.
Franches, véritablement. Mais ils n'ont jamais réussi à trouver le chemin des filets. Alors, par maladresse, par manque de réussite aussi. Et puis parce que Farnol, côté Havrais, dans le but Havrais, a sorti un gros match aussi.
Ça nous rassure.
Et donc,
bien, là, ça nous met en joie, là.
Voilà, mais c'est ça. C'est... Alors attention, oui, le Touassé était une équipe attentiste en début de saison, notamment au mois d'août, quand ils ont enchaîné plutôt des bons résultats. Mais depuis, certes, les résultats sont peut-être un peu moins bons. Il y a peut-être un peu moins de victoires ces derniers temps, mais il y a une vraie progression. C'est en train de basculer de simplement d'une équipe qui défend à une équipe qui produit un peu plus. Alors attention, le Touassé n'est pas qu'une équipe attentive.
Frédéric Lenay de la Nouvelle République d'Indre-et-Loire. Merci beaucoup, Frédéric. Et Frédéric, personne t'entend à Tours, hein, tu peux le dire, tu peux laisser parler ton cœur de breton. Allez, Brest.
non, parce que là, franchement, c'est ce que je vous disais, c'est que ces dernières semaines, il y a du mieux dans le jeu. Au mois d'août, je vous aurais peut-être dit ça, parce que franchement, on s'ennuie à ferme. Mais il y a du mieux dans le jeu, on commence à prendre du plaisir. Même face au Havre vendredi, c'était largement mieux. En Coupe de la Ligue également, le Tour FC qui a éliminé Angers. Bon, une équipe
club de Ligue 1
ou à prime d'Angers, mais le Tour FC s'est imposé en Coupe de la Ligue et au terme d'un bon match. Donc on est en train de prendre un peu plus de plaisir en regardant cette équipe tourangelle. Donc je vais dire allez le Tour FC.
Merci beaucoup Fred, à très bientôt.
À bientôt.
18h48 sur France Bleu, Brice Gisel. On va refermer la page foot. Voilà pour la Ligue 2. On va désormais parler CFA. Donc on va rouvrir une nouvelle page foot. Et on va parler du stade Plabennécois qui présente en ce moment même son équipe à l'étage juste en dessous. Voilà. Si vous entendez du bruit de la musique, c'est le stade Plabennécois à l'Arena Café. Et donc on est avec Franck Cardiles, l'entraîneur. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Et également avec Loïc Mautier, le gardien de but de cette équipe. Bonsoir Loïc. Parlez bien dans le bleu du micro Loïc. 9 journées en CFA, Plabennec 12e de son groupe, 12e sur 16, hein, ce sont des groupes de 16. Une victoire, 4 matchs nuls, 4 défaites. Déjà on va parler Loïc du match de ce week-end. Je vous appelle Loïc, mais c'est bien à vous, à Franck, que je m'adresse. On va parler du match de ce week-end, Franck. Vous faites match nul un partout à Fleury. Est-ce que c'était la réaction espérée après la lourde défaite à domicile face à Lorient et l'élimination également en Coupe de France à Bréquigny?
Oui, on voulait une réaction face à ces deux défaites là, justement de rang. Je pense qu'on, sur la prestation qui a été faite justement à Fleury, je pense qu'on a, on a su répondre présent dans ce domaine-là. Et je pense que c'est un match même référence là qui, qu'on a pu faire justement à Fleury, qui serait bon pour la, la suite du championnat.
Alors justement, Loïc Mottier, donc Plabennec qui est, on va dire, dans le ventre mou, la zone rouge est pas forcément très très loin. De toute façon, l'objectif principal cette saison, c'est le maintien à nouveau.
Ouais, c'est le maintien. Bon, c'est un peu comme tous les ans. Hein. On est en reconstruction là depuis. On était avec notre deuxième année en reconstruction, donc on peut pas espérer mieux que le maintien cette année.
Alors un maintien, ça passe forcément, Franck Cardiles, par de bons résultats également à domicile. Et pour le moment, c'est peut-être ça ce qui vous manque, c'est une victoire à Kervegan.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas eu depuis cette année encore. Donc j'espère samedi prochain contre Trélissac, ça c'est clair. Je pense qu'il serait bon justement, même pour la confiance aussi, maintenant de commencer à prendre les 4 points à domicile pour attaquer ce championnat. Parce qu'on dit souvent que un maintien en CFA, ça passe par les matchs à domicile avant tout.
Martial, toi qui suis également le Stade Plabennécois hein, pour foot29.com, même si c'est vrai que ce championnat, c'est une poule où il y a énormément d'équipes ambitieuses, à commencer par Trélissac notamment, le maintien, il est quand même dans les cordes de cette équipe plabennécoise.
Oui, tout à fait. C'est la difficulté pour Plabennec, c'est qu'il y a un effectif jeune et qui découvre le CFA, voire la Coupe de France pour certains. C'est un championnat qui est très 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 dense cette année parce qu'on n'a pas vraiment d'équipe qui est lâchée. Oui. Tous les ans, on avait une petite équipe qui se faisait balader. L'année dernière, c'était Limoges. Et là, vraiment, tout est resserré. Et c'est un championnat qui est très, très, très long. Même s'il n'y a que 16 équipes, c'est éreintant. Ouais. Et il y a des longs déplacements. Et on a vu Trélissac, justement, qui était dans les choux complètement au départ. Et qui, là, maintenant, est parti force 4. Le maintien, c'est pas du tout hors de portée. Là, pour le moment, de toute façon, ils ne sont pas relégables. Ça va se jouer sûrement par contre à un petit point, deux points. Donc,
sachant qu'une victoire en CFA c'est 4.
Voilà.
Donc ça peut aller également vite. Et Loïc Mottier, c'est vrai que justement Martial en parlait, vous avez des déplacements, je crois que cette saison le plus lointain ça doit être Mont-de-Marsan. C'est dans les Langues.
C'était l'année dernière Mont-de-Marsan. Ouais.
Mais là même Trélissac, c'est le Périgord,
ouais, c'est ça.
C'est loin de Bordeaux, c'est loin de tout. Mmh. Arriver à cumuler ça avec votre vie professionnelle.
On arrive à s'adapter hein, depuis des années qu'on fait ça. Après, il faut se dire aussi que les autres, quand ils viennent aussi à Plabennec, c'est la même. Parce que nous aussi, on est tout au bout. Hein, donc, mais après, faut pas se cacher derrière des longs déplacements. Faut juste après récupérer après ça et puis remettre les chevaux et continuer à travailler.
Donc samedi réception de Trélissac à Kervegan à partir de 18h30. J'ai dit une bêtise, Franck Cardiles.
Ouais, petite modification. Il y a eu une demande de Trélissac pour avancer le match à 18h. Donc,
en raison normalement, de ses distances, peut-être.
Tout à fait. Ouais. Ça a été validé. Donc normalement, le match est à 18h samedi prochain.
Donc équipe en forme, hein, on le disait, Franck.
Ouais, c'est une équipe qui est sur 4 victoires de rang, comme le dit Martial. Donc c'est vrai que c'était aussi annoncé un prétendant au titre. Bon, ils ont eu un début de championnat un peu compliqué. Et là, par contre, c'est vrai que sur 4 victoires de rang, ça montre justement la qualité de cette équipe-là.
Donc à partir de 18h, samedi rencontre
à Kervegan.
Voilà, face à Trélissac, on vous souhaite bonne chance. Et puis on espère et on croise les doigts et tout ce qui se croise pour cette première victoire cette saison devant votre public. Merci beaucoup Franck Cardiles, entraîneur, et Loïc Mottier, gardien de but
merci
du Stade Plabennécois. Et donc bonne chance pour la fin également de cette saison de CFA. Et puis merci également à Martial, il était bien, il est resté jusqu'au bout.
Je suis gentil, hein.
Tellement gentil. 18h53 sur France Bleu Brésil, on va désormais parler de course à pied, puisque au standard de France Bleu Brésil, on va retrouver François Ledissès, qui est l'organisateur de ce qui est l'un des événements de course à pied les plus populaires en Bretagne, le semi-marathon Saint-Paul-Morlaix et le 10 km Tolé-Morlaix. François Ledissès, bonsoir.
Oui, bonsoir.
43e édition, un dimanche du semi-marathon Saint-Paul-Morlaix, plus le 10 km et bien sûr les épreuves, le mini-marathon, épreuve Benjamin, épreuve mini, mais handisport, etc. Combien d'inscrits? Parce que je crois que les inscriptions sont closes désormais. Hein.
Alors, les inscriptions sont closes en matière d'inscription papier, mais on peut encore s'inscrire via Internet jusqu'à mercredi soir minuit. Alors oui, effectivement, les inscriptions vont bon train puisque on est sur des bases de 4500 inscrits sur le 10 km et très près de 3000 sur le semi-marathon, plus on va certainement s'approcher d'un petit millier au niveau des jeunes. Bon, on va dire que ce sera un excellent cru.
Donc ouais, environ 4500 ouais, plus 3000 plus un millier, allez, 8500, vous êtes dans votre moyenne.
Ouais, et avec, bien sûr, on n'oubliera pas la cavalcade ou le trail urbain qui se déroulera la veille, à savoir le samedi soir. Là aussi, on attend 700-800 participants. Donc oui, on est sur des bases de 1000, ce qui n'est pas rien. Voilà, disons-le franchement.
Alors François Le Dissès, quelle nouveauté pour cette année, si on parle notamment des épreuves phares, le semi-marathon oui, et alors, le 10 km.
Bah, des nouveautés, si on veut effectivement rester toujours dans le top français, bah, il faut innover, il faut créer, il ne faut pas s'endormir. Hein, c'est le cas du Saint-Paul-Morlaix. Alors des nouveautés, d'abord la cavalcade qui aura lieu le samedi soir. Hein, donc un trail urbain intramuros de nuit avec un passage du premier étage du viaduc, ce qui n'est pas rien. Ensuite, un beau parrain en la personne de Bruno Hobby, international, qui donnera une conférence le samedi après-midi à l'espace culturel du Roudur sur la manière de s'entraîner, les fautes à éviter, etc.
Et puis alors, aussi, le Roudur, c'est à Saint-Martin-des-Champs, hein, rappelons-le.
Oui, Saint-Martin-des-Champs, l'espace culturel. Et surtout, une grosse innovation, puisque une société suisse sera présente sur les événements et filmera tous les coureurs avec une possibilité à travers son dossard de télécharger son parcours et puis de le faire partager via Internet aux amis qui sont restés un petit peu à la maison au chaud, mais le chaud sera sur Morlaix parce qu'on nous annonce du très beau temps. Voilà.
Alors c'est justement cette innovation-là dont vous parlez, François Le Dissès, qui permet de renouveler un petit peu le
oui,
public.
Oui, de renouveler. On a un beau parrain, on a la cavalcade. Donc la grosse faute à éviter, parce que la concurrence est là, hein, n'ayons pas peur. Il y a 6500 courses en France, 9 500 000 pratiquants. Bon, le coureur, il a un budget, donc il choisit. Il faut l'attirer, lui donner du service, et c'est ce qu'on essaye de faire en toute modestie sur le Saint-Paul-Morlaix.
Alors sur le Saint-Paul-Morlaix, donc sur le semi-marathon, le 21 km, il y a justement des sortes de poissons pilotes également
oui,
qui sont là pour assurer
un
meneur d'allure, c'est un peu plus classe. Ouais.
Alors effectivement, il y en aura 4 sur le semi-marathon, il y en aura un positionné sur des bases de 1h30, sur des bases de 1h40, sur des bases de 1h50 et 2h. Donc il suffit tout simplement de repérer la flamme qui est positionnée dans leur dos et puis essayer de suivre et puis on va au bout. Alors bien sûr, la petite faute à éviter, si on pense faire 1h50, ne pas se positionner derrière celui qui va essayer de vous amener à 1h30.
Ah oui, c'est à savoir voilà. Gérer son effort. Voilà, François Le Dissès, merci beaucoup. Et puis on vous donne rendez-vous
toujours,
parce que ce semi-marathon sera à suivre et toutes les autres épreuves également sera à suivre sur France Bleu Brésil.
Oui, oui, oui. Et un réel plaisir toujours de partager notre passion et ma passion avec France Bleu, qui est un fidèle partenaire depuis oh là là, des dizaines d'années. Merci
à vous. Ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup, François Le Dissès. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Non, ça a dû couper. Il était pressé d'aller s'entraîner. L'un des organisateurs du Saint-Paul-Morlaix et du Tolé-Morlaix, donc à vivre à partir de 15h dimanche sur France Bleu Brésil et jusqu'à 17h, presque 18h58. Je vais vous donner une petite info foot, puisque ça y est, c'est fait. Johan Gourcuff a signé ce lundi son contrat avec le Stade Rennais, mais en revanche, toujours pas de date quant à une possible apparition sur les terrains de Ligue 1. 18h58 sur France Bleu Brésil.
Vous ne trouvez pas que les mots sont ambigus, voire louches? Arguerio, un trésor, rien de ça. Chilao, chelou, 7h55 chez Axel, 13h55 à domicile. Ne frappez pas, sonnez.
France Bleu, écoutez, on est bien ensemble.
Si vous prenez les mêmes routes et voyez les mêmes paysages que nous.
Si vous supportez les mêmes équipes et chantez les mêmes chansons que nous.
Si vous levez les yeux au ciel et ouvrez votre parapluie en même temps que nous.
C'est simplement que nous ne sommes jamais loin de vous.
France Bleu, on est bien ensemble.
Ce n'est pas la planète qui est menacée par le dérèglement climatique. La planète, elle ne sait même pas qu'il y a un problème, que ça a déjà commencé. Que les espèces qui disparaissent chaque jour se comptent déjà par centaines, et les victimes humaines par millions. Elle ne sait pas que c'est maintenant qu'il faut agir, se mobiliser, avant que ce soit irréversible. La planète,
elle ne sait pas tout ça. Alors que nous, nous savons. Normal, puisque c'est nous le problème. Et donc à nous de le régler. Coalition Climat 21, si on ne fait rien, personne ne le fera à notre place.
France Bleu, 18h59, je vous donne rendez-vous vendredi 19h30 pour la 14e journée de Ligue 2, la rencontre entre Brest et Tours. Et puis...